Que le Seigneur soit loué et remercié pour ces magnifiques cantiques. Bientôt, accompagnés de musique céleste, nous y chanterons. Là-bas, nous chanterons là-bas dans la gloire. Et là, même ceux qui ne sont pas musiciens joueront de la harpe. Ce sera magnifique. Je peux déjà vous le dire. Heureux celui qui pourra chanter avec nous, qui pourra jouer avec nous. Heureux celui qui entrera dans la joie de l'Éternel et qui sera toujours avec lui. On ne le dira jamais assez clairement. On ne le criera jamais assez profondément dans les cœurs. Servons le Seigneur entièrement dans la foi. Suivons-le, aimons-le, obéissons-le et marchons avec lui jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous passions vraiment de la foi à la vue, jusqu'à ce que nous ayons intérieurement la bienheureuse certitude que nous serons vraiment présents, que nous prendrons part à son retour quand il reviendra, qu'il ne subsiste pas le moindre doute à l'heure la plus honnête de notre vie où nous nous jugerons devant la face de Dieu, où nous nous examinerons devant lui et où nous serons honnêtes avec nous-mêmes devant lui. Si à ce moment-là, il y a une paix bienheureuse et la certitude que nous sommes en accord avec Dieu et avec la parole de Dieu, que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons avec lui et qu'il est avec nous, que tout est vraiment en harmonie et qu'il ne reste pas 1% d'incertitude, alors nous pouvons chanter. Je suis bien dans le Seigneur. Je me sens bien dans le Seigneur. Il faut en arriver là. Donc, paix céleste en français. Vraiment, là pour que nous soyons totalement à l'aise dans le Seigneur et que tous ceux qui nous entourent soient à l'aise pour sentir que nous avons été bénis par Dieu et pas seulement pour en parler. Qu'il s'agisse de chants ou de la parole de Dieu, tout sert à cela. Ou à deux choses principales. L'une est que nous y honorons et glorifions Dieu. L'autre est que nous soyons interpellés, corrigés, redressés jusqu'à ce que nous arrivions effectivement là où Dieu veut que nous soyons. En ce qui concerne les deux cantiques qui ont été chantés, je voudrais lire un seul verset d'Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Au deuxième cantique d'Apocalypse 15, Apocalypse 15, de la troupe qui est debout sur la mer de cristal, qui a vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Il est écrit au verset 3 ensuite, Apocalypse 15, verset 3. Ils chantèrent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, juste et véritable sont tes voies, ô roi des nations. » Il y a des passages bibliques magnifiques. La parole de Dieu dans son ensemble est en effet glorieuse. Mais lorsque nous lisons ainsi les passages qui nous montrent l'achèvement, lorsque nous sommes auprès du Seigneur, lorsque tout le combat, toute notre course est terminée et que nous pouvons alors être auprès du Seigneur, chanter et jouer avec les harpes de Dieu dans les mains et ne plus pouvoir se souvenir de toute la détresse et de la souffrance qui était ici sur terre. Mais les choses anciennes auront disparu et tout sera devenu nouveau. Lorsque nous lisons de tels passages, nous sommes envahis par la nostalgie et nous aimerions être déjà prêts à quitter cette terre. J'espère seulement que nous avons déjà été détachés, comme le chante le compositeur, « Arrache-moi de la terre, rends ma foi grande, donne-moi un sens fidèle, prends-moi tout entier à mon Jésus, tout entier à mon Jésus. » Sur la parole que le frère Schmitt a lue, tirée de Jean 15, une parole sérieuse qui pourrait d'une part attrister, une parole sérieuse qui d'autre part réjouit. Attriste ceux qui s'éloignent du Seigneur, ceux qui ne restent pas en lui et ne demeurent pas dans sa parole. Et je pense que c'est justement ici, dans ce texte, que nous est montré l'importance de demeurer dans sa parole pour pouvoir demeurer en lui. Celui qui n'est pas ou ne demeure pas dans sa parole ne peut pas être et demeurer en lui. Celui qui a compris cela une fois que la parole ne peut pas être séparée du Seigneur, il est la parole, au commencement était la parole. Celui qui sort de la parole sort de lui. Il se coupe lui-même de l'apport, de la force, de la puissance et de la sève, de la vie. Parfois, les gens ne nous comprennent pas. Et même si Paul écrit ainsi les Épîtres, et même ici, notre Seigneur nous avertit, si nous mettons la plus grande importance sur la parole, que nous y restions, que nous soyons conforme avec elle et que nous évitions toute interprétation qui nous éloigne de la parole, qui est en fait une falsification, une contrefaçon, car l'original est la parole et toute interprétation est une contrefaçon, toute interprétation est une falsification. Et si l'original nous a pénétrés et que nous ne pouvons pas faire autrement que d'avertir, alors nous le faisons au nom du Seigneur, car nous savons et connaissons le résultat. Celui qui s'écarte de la parole se coupe lui-même du Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, telle est la condition. Et ainsi, que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce de rester, de demeurer dans sa parole et de ne pas laisser sa parole être déformée comme cela s'est produit sur terre depuis le jardin d'Éden, où le serpent a pris la parole de Dieu et l'a présentée un peu différemment. Et déjà, ce n'était plus l'original, mais une contrefaçon, une falsification, et une falsification pieuse. Et la mort, l'aiguillon de la mort était dans toute la chose, dans la parole originale est la vie. Dans l'interprétation, il y a la mort. Et c'est pourquoi il est vraiment important de rester, de demeurer dans la parole. Et ainsi, nous restons aussi dans le Seigneur. Ce passage de Jean 15 m'a rappelé la parole que Frère Rousse a lue dans Genèse chapitre 17, où la même comparaison est faite entre un homme qui se fie à lui-même et qui veut voir ou faire de son bras une puissance. Et le verset 7, ensuite, « Mais béni est l'homme qui se confie à l'Éternel. » Il y a un passage des Proverbes qui dit « Ne compte pas sur ton intelligence, ne te confie pas à ton intelligence, ne t'abandonne pas à ton intelligence et sur ta propre sagesse, mais confie-toi à l'Éternel. » Nous devons nous confier à l'Éternel. Notre propre sagesse nous égarera et finira par nous faire passer pour des insensés. Car ce qui est sage devant le monde est folie devant Dieu. Et c'est là que Dieu veut nous parler et faire de nous des gens qui ont un lien avec lui et sa parole et qui rejettent tout le reste. Jérémie 17, verset 7. Mais béni est l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est le refuge. Pas un enseignement, mais l'Éternel est l'assurance, est le refuge. Il est semblable à un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le torrent, là d'où vient l'humidité. C'est là où tout est vivifié, c'est là où tout est nourri, c'est là que doivent aller les racines, afin que du fruit soit produit même dans les jours de sécheresse et lorsque la chaleur s'abat sur nous. La différence entre les sarments qui sont coupés et qui se dessèchent ensuite, et le texte que nous lisons ici dans Jérémie, c'est bien cela. Un arbre planté près des courants d'eau, véritablement planté par l'Éternel, la plantation de notre Dieu, c'est ce que dit l'autre prophète. Il porte du fruit, un tel arbre. Même dans les jours de sécheresse, il reste lié au Seigneur, au cèpe, et il puise la sève dont il a besoin. Et il verdit, fleurit et porte du fruit, même en période de sécheresse. Si nous devons passer par une période de sécheresse, et c'est vrai, nous le reconnaissons tous, néanmoins nous voyons que Dieu donne du fruit de toutes sortes, produit par l'Esprit en nous, produit par la prédication qui s'exprime par le fait que de nombreuses personnes viennent au Seigneur, du fruit de toutes sortes, fruit de l'esprit, fruit de l'âme, fruit des âmes, quoi qu'il en soit, celui qui est cuit, non, fruit des âmes, donc quoi qu'il en soit, celui qui est planté par Dieu porte du fruit, il ne peut en être autrement. Et ici, dans Jean 15, le passage où il est dit, qu'ils seront jetés. On se demande alors vraiment quel sens il y avait à ce que le sarment soit même dans le cèpe s'il n'est pas prêt à se laisser tailler. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Il faut que vous alliez dans une vigne, pas seulement au moment des vendanges, de la récolte, mais au printemps. Comment tout est taillé pour que la sève n'aille pas dans les pousses sauvages là-bas, et que de la sève, rien n'en devienne. Tout est taillé et avec force, à tel point que l'on pourrait avoir peur et que celui qui ne s'y connaît pas devrait demander, mais oui, mais attendez, tout est maintenant coupé tout autour. Où là? Où est-ce que le fruit devrait apparaître? D'où est-ce que le fruit devrait apparaître? Oui, c'est justement parce que tout est coupé de manière si radicale que le fruit est énorme. Et c'est pour cela, donc seulement les tiges sauvages. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour que le vigneron émonde et nous taille, tout simplement. Il ne le fait que pour notre bien, pour que le fruit jaillisse, non pas dans les pousses sauvages qui nous montent à la tête, mais dans les vraies pousses, celles qui nous vont droit au cœur. Que Dieu soit avec nous, c'est notre souhait à nous tous. Je voudrais encore lire 1 Chronique 16, il y avait là une parole magnifique que je n'ai pas lue ce matin, et aussi dans Deutéronome 8, ici dans 1 Chronique 16, au verset 34, qu'elle nous incite à l'adoration, à la louange. 1 Chronique 16, verset 34. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde est éternel. Et priez en disant, aide-nous, toi le Dieu de notre secours. Rassemble-nous de nouveau et sauve-nous du milieu des nations afin que nous rendions grâce à ton Saint-Nom et que nous nous glorifions de ta louange, de te louer. Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Dieu a dispersé le peuple désobéissant. Il les rassemble dans un but précis, dans l'obéissance à sa parole. La désobéissance, l'endurcissement et le rejet conduisent à la dispersion. La foi, l'obéissance ramène au Seigneur et il veut nous ramener, tout comme Israël retourne dans le pays naturel de la promesse, parce que Dieu a un projet pour eux et avec eux. Le Seigneur ainsi fait entrer l'Église du Nouveau Testament dans la parole de la promesse pour ce temps. Et notre foi s'ancre dans ces promesses de Dieu par l'obéissance afin que Dieu puisse accomplir ce qu'il a promis. Extrait de Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 3. Je voudrais lire. Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Il t'a donc humilié et t'a fait souffrir de la faim. Puis il t'a de nouveau nourri de la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue pour te faire comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans le sermon sur la montagne, notre Seigneur a en effet introduit cette parole selon laquelle l'homme ne vit pas seulement de pain, mais vraiment de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La signification de la parole, l'importance de la parole ne peut pas être assez soulignée. Dieu fait tout selon sa parole et tous ceux qu'il a appelés au service font ce qu'il a ordonné et le font seulement selon sa parole. Nous n'avons pas notre propre plan ni notre propre programme. Nous sommes nous-mêmes une partie du plan de Dieu et du programme de Dieu pour ces jours, pour notre temps. Mais il est dit d'une manière merveilleuse que Dieu est miséricordieux, qu'il nous fait miséricorde comme il a pris soin du peuple d'Israël de manière toujours nouvelle. Il a pitié de nous. Il relit le verset 3 de Deutéronome 8. Il t'a donc humilié et t'a fait souffrir de la faim, puis il t'a de nouveau nourri de la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connu. Et voici maintenant le point culminant de cette affaire. Pour te faire comprendre, pour te conduire à la connaissance, il faut alors reconnaître de quoi il s'agit, pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Pour te faire comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est de sa bouche que sort sa parole. Mais dans sa parole, il y a la puissance de Dieu. Quand il dit que cela deviendra, quand il dit quelque chose, cela arrive. Quand il dit que la terre produira, elle produit. Quand il dit que la manne descend maintenant du ciel, la manne descend du ciel. Et quand il dit Moïse frappe le rocher, je ferai jaillir de l'eau. Il suffit que Moïse frappe le rocher pour que l'eau jaillisse. La parole de Dieu et la puissance de Dieu sont toujours ensemble. Et nous aussi devons simplement compter sur le fait que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Combien d'entre nous se rendent compte maintenant que nous ne sommes pas seulement ici pour entendre la parole de Dieu, mais que nous sommes ici pour faire l'expérience avec Dieu dans sa puissance, d'expérimenter la puissance de Dieu. Que la parole entendue peut devenir en nous la puissance de Dieu. Paul a dit et écrit aux Romains et aux Corinthiens, la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu. La puissance divine. Non plus tes efforts ou les miens, mais réellement la force de Dieu, la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous voulons vivre et expérimenter. Ensuite, il est dit plus loin dans ce texte, dans Deutéronome 8, que l'homme ne vit pas seulement de pain, etc. Ainsi de suite. Ensuite, au verset 4. Les vêtements que tu portais ne se sont pas usés et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. C'est surtout quand les gens vieillissent qu'ils s'en rendent compte. Quand ils vont chez le médecin, il leur dit oui, ils doivent mettre leurs pieds en l'air, lever leurs pieds, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu cela? Quand on vieillit, il y a des conseils comme ça chez les médecins. Ils nous disent comme ça quand on est assis à un certain âge, d'essayer souvent de se détendre les pieds. Oui, mais ils n'en avaient pas besoin à l'époque. Qu'ils soient vieux ou jeunes, ils n'avaient pas besoin de cordonniers, ils n'avaient pas besoin de tailleurs, ils n'avaient pas besoin de médecins, ils n'avaient pas besoin de boulangers, ils n'avaient besoin de rien. Dieu était avec eux. Le costume restait neuf, repassé pendant 40 ans. Les chaussures étaient cirées dans le désert. Rien n'était nulle part. Il n'y avait nulle part un talon tordu, un talon, tout était en ordre. Et la Bible dit, pendant ces 40 ans, rien ne s'est usé. Et je le crois. Dieu peut donner de la solidité aux gens et à ce qu'ils portent. Et à ce que vous portez. Amen. Mais notre Dieu est un Dieu glorieux. Nous devons simplement laisser Dieu agir et ne pas l'encercler par notre incrédulité et le limiter, comme diraient les Anglais. Mais simplement le croire capable de contrôler tout l'espace et tout le temps. Et il dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied, pour qu'il remplisse tout l'univers. Et ainsi, nous aussi, nous ferons l'expérience de ce que nous n'avons pas encore vécu. À savoir que Dieu nous prouve sa fidélité de telle sorte que nous nous en irons honteux, mais reconnaissants. Je le lis encore une fois, et plus précisément le verset 4. C'était ton homme 8. Les vêtements que tu portais ne se sont pas usés. Et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Et maintenant, voici de nouveau verset 5. Reconnais donc dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, est ton éducateur. Comme un père élève son fils. De nouveau ici, il s'agit de reconnaître. Dieu fait venir la sécheresse, Dieu fait venir la famine, puis il irrite et nourrit à nouveau, puis il nous montre ce qu'il a fait à son peuple, il nous montre ce qu'il a fait pour nous, et c'est alors qu'intervient à nouveau ce sens et ce but de au verset 5, reconnais donc dans ton cœur, pas dans ta tête, mais dans ton cœur, que l'Éternel, ton Dieu, est ton éducateur. Qu'est-ce que l'homme de Dieu écrit aux Hébreux? Tout fils qu'il aime, il le châtie, il le reprend, il l'éduque. Vous les pères, n'est-ce pas une grande douleur de voir des fils échouer et ne pas donc désobéir, ne pas entendre, écouter? N'avons-nous pas eu de la peine quand nous avons dû châtier? Mais parce que nous les aimions, nous l'avons fait. Nous ne voulions pas qu'ils deviennent des instincts comme ça, sauvages, mais qu'ils soient réellement formés, éduqués, élevés. Le Seigneur ne veut pas seulement faire de nous des fils et des filles. Il ne veut pas seulement être notre rédempteur. Il veut être notre éducateur. Il nous fait savoir que, il dit, je vous prends à mon école, que je veux que vous soyez comme je veux que vous soyez. Et ensuite, il faut ajouter l'éducation. Et parfois, dans l'éducation, il y a aussi des choses qui se passent derrière, n'est-ce pas? Et cela en fait partie. N'est-ce pas? On reçoit quelque chose derrière, n'est-ce pas? Maintenant, une comparaison. En tant qu'être humain, nous sommes toujours prompts à demander des comptes à l'autre, à remettre les autres à leur place. Mais quand les autres veulent nous remettre à notre place, c'est un peu plus désagréable, n'est-ce pas? Mais disons-le franchement, ce n'est pas l'un qui éduque l'autre, mais le Seigneur, notre Dieu, qui est notre Sauveur. C'est lui qui nous éduque. Nous sommes son peuple, des fils et des filles de Dieu. Et parce qu'il nous veut du bien, il n'a confié à aucun d'entre nous le droit d'éducation et d'éduquer l'autre. Qu'écrit Paul? Vous avez beaucoup de maîtres, mais peu de pères. On trouverait très vite des maîtres d'élevage, mais pas l'écurie avec les chevaux. Hein. Mais les maîtres d'élevage ne tarderaient pas à arriver. Le Seigneur lui-même est le maître d'école. Il est notre éducateur. Et c'est pourquoi nous venons sous sa parole, pour nous laisser interpeller, pour être éduqués jusqu'à ce que l'homme de Dieu soit parfait, doté de tout ce que Dieu veut nous donner et de tout ce qu'il veut voir en nous. Il le justifie ici en disant, l'Éternel ton Dieu est ton éducateur comme un père élève son fils. Et dans Hébreu, il y a encore l'ajout à qui il veut du bien et qu'il aime, son fils qu'il aime, à qui il veut du bien. Et nous pouvons croire de tout cœur que Dieu nous veut du bien et nous reconnaît comme ses fils. Puis vient le verset 6. Il observe et observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en le craignant. Le verset 6. La crainte de Dieu est le commencement de toute sagesse divine. Si un homme a de la crainte pour Dieu et sa parole, alors ça, c'est le commencement qui est déjà fait. Et le Seigneur donnera la grâce de continuer. Lorsque j'ai lu le troisième verset jusqu'à la fin, à savoir que Dieu a fait venir la faim et a ensuite donné de la nourriture, j'ai involontairement pensé au chapitre 8 d'Amos, un texte très connu de nous tous. Amos chapitre 8, verset 11. Il est écrit ici. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez que des jours viendront. C'est ainsi que Dieu, l'Éternel, l'a déclaré. J'enverrai la faim et la soif dans le pays. Non pas la faim de pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu nous a fait dire, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu, de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est bien là sa parole. Ça, c'est sa parole. Dieu a envoyé la faim, mais il a aussi donné de la nourriture pour apaiser cette faim. Si Dieu a promis d'envoyer une famine dans le pays, une faim dans le pays pour les derniers jours, il doit avoir pris des dispositions pour apaiser cette faim spirituelle, comme il l'a fait à l'époque. Je le relis volontiers. Sachez que des jours viendront. C'est ainsi que Dieu l'Éternel l'a déclaré. Aujourd'hui, cette écriture, si notre Seigneur était ici aujourd'hui, il dirait aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie devant vous. Dieu a envoyé une faim dans le pays. Je l'ai dit ici lors d'un service divin, lorsque je suis revenu de ce dernier voyage missionnaire et à la fin du voyage là-bas à Nairobi, un évêque pentecôtiste a aussi prêché. Vous savez qu'ils ont des cols inversés. Il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent pas, mais Dieu les fera toutes correspondre, n'est-ce pas? Il ne m'a pas désigné comme maître d'école, mais pour prêcher sa parole. Donc, je n'ai rien à dire à quelqu'un, mais cet homme, il a donné un témoignage et je ne me passe pas ces deux fleurs ou un bouquet comme bouquet. Mais celui-ci a dit textuellement, frère Franck, nous avons eu ici les plus grands évangélistes d'Amérique. Nous avions aussi notre grand homme d'Allemagne ici et des dizaines de milliers de personnes venaient aux réunions. Mais il ne reste rien. Ce sont ces mots. Il ne reste rien. Après la fin du spectacle, tout était fini. Puis il dit, quand tu étais ici l'année dernière et que tu n'as prêché que deux fois, depuis notre assemblée a doublé en nombre. Et puis il a dit autre chose. Il dit, soit tu es appelé prophète par notre peuple. Oui, je dis que je ne le suis pas. Je lui ai dit, je ne le suis pas. Mais c'est ce qu'il a dit. Ou comme une Bible ambulante, marchante. Mais Dieu nous a donné les deux. Oui, ça j'aimerais l'être, une Bible ambulante. Mais Dieu nous a donné les deux, la parole prophétique. Nous n'avons plus besoin de prophètes. Dieu a seulement promis qu'il enverrait un prophète comme Élie avant le grand et terrible jour du Seigneur. Oui, bien, quelqu'un veut-il me dire que Dieu a promis encore un autre prophète? J'ordonne à un tel homme de se taire ou de quitter la salle. Ici, en ce lieu, on ne blasphème pas Dieu et la parole de Dieu. Ici, on proclame et on le croit tel qu'elle a été écrite dans la main du Seigneur dans l'Apocalypse. Comme cela a été écrit, car dans la main du Seigneur dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 20, il n'y avait que sept étoiles. Et tout le reste, ce sont des escrocs et des imposteurs et non des serviteurs envoyés de Dieu. Là, le Amen, c'est ainsi, c'est vrai. Merci. Quelqu'un pourrait dire, n'est-ce pas Dieu? Pas du tout. Il faudrait prendre la plus grosse massue qui soit pour bien frapper les gens et les ramener à la raison. Maintenant, vous allez demander, est-ce que c'est encore de la prédication de la parole, ça? Ne voyez-vous pas que le zèle du Seigneur me consume? Ne connaissez-vous pas la responsabilité que l'on a devant Dieu avec une telle prédication dans le monde entier et qu'il faut ensuite... Regardez, le corps du Seigneur est déchiré, l'un sans rien dire, l'un de ces gens-là vient et dit, il y a encore sept grands hommes que Dieu utilisera. Et l'un sera noir, l'autre blanc, l'autre jaune, et puis ils ont toutes les races que vous croyez. Oui, pas du tout. Tout ce qui se passe et combien viennent et disent bien d'autres choses, nous n'avons plus rien à entendre, à attendre qu'une puissance effusion du Saint-Esprit, afin que la parole de Dieu entendue et crue, qui est dans nos cœurs, puisse prendre vie et que le Dieu Tout-Puissant se révèle pleinement dans le corps de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'un homme qui donne un spectacle. Nous avons besoin du Dieu vivant qui se révèle à nous tous. Et alors, nous sommes tous aidés. En ce qui concerne bien sûr la nourriture spirituelle, elle doit être distribuée au temps de la famine, au temps de cette faim. Nous l'avons déjà observé aujourd'hui à propos de Joseph. Dans ce temps de cette faim existante, Dieu a toujours eu des voies et des moyens. Et je voudrais dire clairement, en me référant à Matthieu 24, verset 45, que c'est aussi pour l'amour de mes frères bien-aimés qui participent à la prédication. Ce n'est pas un système d'un seul homme, mais tous les frères qui servent avec la parole de Dieu en ce moment participent à la même proclamation. Ils partagent la même nourriture spirituelle, à savoir la parole de Dieu qui nous a été révélée par Dieu pour ce temps dans son intégralité. Et nous le faisons dans le même esprit. Nous proclamons la parole à la lumière de la révélation divine telle qu'elle nous est parvenue. Si donc il est écrit ici d'un serviteur fidèle et sage, mon Dieu, que Dieu ait des centaines et des milliers de serviteurs fidèles et sages. Nous avons assez d'imbéciles. Que le Seigneur ait donc quelques personnes sages et fidèles qui ne sont pas sages en eux-mêmes, sous le, à leurs propres yeux, mais que l'on regarde peut-être de haut. Mais qui sont en grâce auprès de Dieu et qui portent ici la parole du Seigneur. Et pas seulement un, mais tous. C'est-à-dire ceux qui sont dans le même esprit. C'est une collaboration et une collaboration dans l'amour divin. Non pas que l'un décide pour l'autre et dise « Tu fais ceci et tu vas là, etc. » Mais chacun est redevable à son Seigneur et reçoit de lui les directives et à sa part de service, comme Dieu le lui a destiné. Et alors, il n'est pas nécessaire que l'un prenne la place de l'autre. Il suffit que chacun prenne la place dans laquelle Dieu l'a placé. J'ai dit tout à l'heure au frère Rousse, s'il ne voulait pas aller en Finlande, car chaque année, j'y passe un week-end, un seul week-end ici. Je suis ici souvent à Zurich, aussi si souvent, parfois en Autriche et dans les pays environnants, et puis dans les pays lointains. Alors, quand on regarde le calendrier, on a un peu... On a un peu la nausée. Le temps est bien rempli. Alors, frère Rousse a dit très humblement, ce n'est pas ma tâche. Non pas que je me serais réjoui, que cela m'aurait fait plaisir. J'aurais été content s'il avait entrepris ce vol. Voilà quelqu'un à qui je demande d'aller. Et j'aurais été content. Quoique je serais content qu'il soit allé, mais c'est très appréciable. Si un homme de Dieu peut dire, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ma tâche, je n'ai pas à voyager, mon devoir est ici, dans l'église locale. Et dans le monde entier, les noms de frères Rousse et de frères Schmitt sont connus. J'ai été étonné à Lubumbashi, les frères m'ont dit, saluez chaleureusement frère Rousse et frère Schmitt. Et partout, on me demande où ils vont. Tous les frères qui ont déjà servi avec la parole dans les différents pays trouvent leur place ici et prendront part à la prédication. Cette cause n'est pas réservée à nous. Elle est là pour nous tous, pour tout le corps du Seigneur. Je veux que tous les frères se sentent à l'aise, que le Seigneur se sente à l'aise et que tout le peuple de Dieu se sente à l'aise, que nous fassions tous ensemble l'œuvre du Seigneur. Car le temps est court et la venue du Seigneur est proche. Il veillera à ce que tout soit fait au temps convenable, au temps voulu et de manière juste. Dans la volonté de Dieu, je me suis également réjoui des cantiques et des instruments. Et je le dis aussi depuis le commencement, vous tous qui venez chez nous, nous sommes déjà en visite ici aux réunions, nous sommes ici, déjà une grande famille aux yeux de Dieu. Nous nous sommes rencontrés assez tard. Nous ne savions pas combien de fils et de filles de Dieu étaient dispersés sur la terre. Mais nous voulons que tous se sentent à l'aise à la maison, qu'ils se sentent chez eux ici. Il se peut que certaines choses soient différentes dans l'organisation extérieure d'un service divin. Mais la parole et l'esprit, l'enseignement sont toujours les mêmes. Où que l'on aille, les assemblées de la Russie, les réunions en Russie sont différentes de celles d'Afrique, celles de là-bas en Afrique, différentes de celles d'Inde, et les nôtres sont encore différentes. Il peut y avoir une certaine empreinte, elle est indépendante de tout, mais nous avons une chose en commun, c'est la sainte parole de Dieu. Je n'oublierai jamais, lorsque j'ai prêché pour la première fois en Inde en 1964, les frères ne m'ont pas laissé monter sur la plateforme avec mes chaussures. Ils m'ont dit, tu dois enlever tes chaussures. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais tu entres sur la plateforme. J'ai dit, mais et alors? Je dois aller à pieds nus? Ils ont dit, mais oui, tu connais pas cette parole? J'ai dit, mais j'espère que je la connais. Moïse devait ôter ses chaussures lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu. Et maintenant, quand tu entres ici en présence de Dieu, tu dois enlever tes chaussures pour prêcher. J'ai dit, alors, bon, si c'est ainsi, alors je vais le faire. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas eu de pied en sueur. Tout s'est bien passé. Et Dieu a béni. On s'intègre, on se soumet au déroulement de leur service divin. Si c'est ce qui est souhaité, alors cela sera fait ainsi. En Grèce, je sais qu'une fois en Grèce, je n'ai pas fait attention pendant le service divin. Et j'ai mis une jambe sur l'autre. La réunion était à peine terminée. On m'a alors réprimandé et on m'a dit... Si cela se reproduit, tu ne pourras plus prêcher ici. Car nos gens ne croient pas qu'un homme puisse mettre une jambe sur l'autre. Je dis alors, je ne le mets pas, je ne vais plus le recommencer. Je peux mettre aussi la jambe l'autre à côté de l'autre, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il faut donc se plier et se soumettre et s'ajuster exactement comme Paul. Merci frère Kel, exactement comme Paul. Mais la prédication est toujours la même. Extérieurement, il peut y avoir des différences. Mais intérieurement, Et en ce qui concerne la parole, tout est identique. Que Dieu nous bénisse tous de la richesse de sa grâce. Amen.